Alors, je participais la semaine dernière à un dialogue public avec Patrick Veil, le fondateur de Bibliothèques sans frontières, grand historien de l'immigration notamment, et il a eu à un moment cette réflexion qu'il avait déjà tenue à ce micro et que je trouve très juste, une réflexion sur l'objet livre, sur sa matière, sur sa force, sur sa résistance aujourd'hui plus que jamais. En fait, il se demandait pourquoi ne pas zapper dans les programmes de Bibliothèques sans frontières les bibliothèques classiques et les remplacer tout simplement par des liseuses, par des e-books, des smartphones. Après tout, c'est le mouvement du monde. À moins qu'il y ait quelque chose dans le livre papier qui garantisse notre liberté. Et là, Patrick Veil a expliqué, c'est vrai, qu'à tout moment, un régime autoritaire peut couper Internet, mais il ne peut pas confisquer, brûler, détruire tous les livres en une seconde. Il ne peut pas, en un clic, les pirater. Il ne peut pas contrôler ce qu'on choisit de lire, quelle page, quel chapitre, ce qu'on décide de sauter. Et je me suis demandé de quoi c'est fait un livre, de copeaux de bois, c'est vrai, mais aussi de cuir, de peau, de tissu, et puis de plus en plus de papier recyclé, de matières vivantes qui sont faites pour durer, mais dont on sait qu'elles peuvent s'épuiser. C'est un objet dont on mesure de plus en plus la rareté. Vous avez remarqué, un objet qu'on se passe, qu'on garde pendant des années, un objet qui nous protège, mais dont on sait aussi qu'il nous faudra le protéger.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui sait quelque chose de la matière des livres. Vous, auditrices et auditeurs de France Inter, connaissez son goût pour les contemporains, sa passion pour les classiques, son tropisme médiéviste. Elle s'est imposée comme l'un des grands noms de cette rentrée, remportant coup sur coup le prix Landerneau des lecteurs et le prix Femina pour son dernier roman s'adapter, l'histoire d'un enfant atteint d'une maladie rare, racontée par les membres de sa fratrie et portée par une écriture absolument magnifique. C'est une joie de vous recevoir, Clara Dupont-Mono. Bonjour.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous. Au fond, de quoi est fait un livre? De quelle matière, fragile ou résistante? Et là, c'est autant à la lectrice qu'à la romancière, mais aussi à l'éditrice que je m'adresse.
Moi, à chaque fois, je vois dans un livre, derrière, un besoin de consolation. C'est là où les livres, ils sont très proches des animaux. C'est que très souvent, ce sont des bêtes consolantes. Et je crois qu'on écrit un livre, et je crois aussi qu'on en lit beaucoup pour se consoler.
Alors, de quoi est-ce qu'ils vous ont consolé, vous?
Hélas, les motifs pour être consolé ne manquent pas, ça s'appelle la vie. Mais de joie aussi, mais de consoler de multiples choses, soit des épreuves de la vie, soit le fait que ce sera simplement une fin, cette vie, et c'est quand même une idée assez intolérable.
Oui, vous dites souvent que vous avez trouvé des réponses dans les livres, Clara Dupont-Mono.
Oui, aux questions que j'étais même pas consciente de me poser.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, il y en a quantité, j'en ai pas là, mais par exemple, est-ce que c'est très important d'être jolie? Est-ce que c'est très important, finalement, de savoir qu'on va mourir? Comment est-ce qu'on peut vivre avec la perte de quelqu'un? Et l'échec, est-ce que c'est pas si facilement digérable? Il y en a quantité des réponses.
Et c'est précisément dans l'espoir d'apporter aux autres ce que les livres vous ont apporté à vous, que vous en écrivez, des livres?
Non, parce que dans ces cas-là, ça s'apparenterait à un acte de charité, et ça ne l'est pas. En revanche, c'est toujours l'éternelle histoire de la nécessité intérieure. En fait, c'est même à l'envers la question, c'est si je n'écris pas, je vivrai moins bien. En fait, c'est exactement l'équivalent. Moi, à chaque fois, je compare ça avec l'envie de, pardon pour cette métaphore extrêmement triviale, mais l'envie de faire pipi au milieu de la nuit.
D'accord.
Il est 4h du matin, vous êtes dans le tiède du lit, il est hors de question de poser un orteil sur le carrelage froid. En plus, ça va vraiment vous réveiller. Néanmoins, si vous ne le faites pas, vous dormirez moins bien. Par conséquent, vous vous levez et vous allez aux toilettes. Eh ben, écrire un livre, et encore une fois, pardon pour ce côté très trivial, on n'est pas très loin quand même de cette logique-là. Si je ne le fais pas, je vivrai moins bien. Donc c'est la question se pose plus à l'envers.
Quand est-ce que vous l'avez su, ça? Quand est-ce qu'il est venu, l'amour des livres?
L'amour des livres, pas l'écriture, hein. L'amour des livres, c'est très standard ce que je vais vous dire, c'est assez tôt, c'est l'avantage de grandir dans une famille où il y a des livres, donc vous les voyez tout le temps, ça devient des compagnons du quotidien, donc quand il n'y en a pas, ça vous interpelle.
Et en même temps, j'ai l'impression à vous lire que c'est aussi une conception du livre comme objet interdit, comme objet tabou. Un jour, vous avez volé un livre dans la bibliothèque familiale.
Oui, et on m'a jamais demandé de le rendre.
Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là?
Il était à moi, c'était un ami que j'avais volé, mais c'est un ami qui m'est resté pour la vie.
Non mais vous volez souvent, Clara Dupont-Mono, parce que c'est un problème avec les invités de Boomerang en ce moment, ils volent tous des livres.
Ah ouais. C'est vrai.
Ah bah, vous êtes la troisième.
J'ai aussi volé des rouges à lèvres au Monoprix quand j'avais 12 ans.
Je cautionne plus vraiment, il va falloir faire une enquête de moralité.
Oui mais rouges à lèvres et livres, regardez, on est équipés.
Ce livre, c'était Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet.
Oui. Un livre que je n'ai pas voulu relire par la suite, parce que je suis pas sûre qui m'emballera autant qu'il m'avait emballé quand j'étais beaucoup plus jeune fille. Et je l'avais pris donc dans cette bibliothèque d'une maison familiale dans laquelle je transitais assez peu. J'y allais de temps en temps. Et je ne veux surtout pas le relire.
Mais qu'est-ce qu'il a changé pour vous, concrètement ?
Alors donc, on pouvait tomber amoureux et écrire ça de façon si flamboyante. Alors ça, c'était la vraie révélation.
Pourquoi est-ce que certains livres restent, Clara Dupont-Monod, pourquoi est-ce que certains livres marquent au point de devenir des classiques, selon vous ?
Ah ça, c'est la question que je me pose chaque semaine.
Ah oui ?
Ah oui. Alors, il y a l'idée, c'est affreux, de l'auteur, s'il est en vie ou pas. Bah oui, vous voyez, c'est si l'auteur n'est plus là, je ne sais pas pourquoi. Bizarrement, il y a une aura entre guillemets de classique qui vient plus facilement.
Il y a très peu d'auteurs publiés de leur vivant dans la Pléiade,
voilà,
par exemple.
Voilà, par exemple. Donc ce qui est complètement injuste, parce que on pourrait tout à fait dire, pour moi, il y a des livres de Modiano qui sont déjà des classiques. Seulement, on s'interdit un peu de dire c'est des classiques parce que ça revient un peu à enterrer l'auteur avant l'heure.
Intéressant.
Oui, c'est très bizarre. Et puis après, vous vous rendez compte que il y a l'idée de la postérité. Qui, sans arrêt, a remis le livre au goût du jour. Et donc, c'est vrai que c'est à l'épreuve des années que vous voyez aussi un livre émerger comme un classique, patiné par les ans, et qui va contenir des réponses à chaque époque.
Et puis, il y a l'école aussi, je me disais. Ben, au début de la semaine, Francis Huster, à ce micro, disait, c'était son point de vue, hein, qu'il en voulait à l'éducation nationale de ne pas savoir donner le goût de Molière aux élèves. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai aimé Molière au collège, mais c'était un point de vue qui peut s'entendre. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Alors, ça m'inspire que j'ai un document là que je vous ai amené. Est-ce que ça, c'est le moment où je peux
non,
en parler
pas, vous, Non, vous, pas forcément. Vous nous parlez de tout ce que vous voulez.
Oui, c'est-à-dire que là, j'ai mis la main sur les livres programmes de la classe de première en vue du bac français. Et je suis épouvantée par le fait que ça n'a pas bougé depuis que moi, quand j'étais lycéenne. Et je trouve que Madame de Lafayette, Stendhal ou Yourcenar, quand on a 16 ans, c'est pas facile. C'est pas facile, et de plus, il n'y a pas de traces de littérature médiévale, ni non plus de littérature contemporaine. J'en déduis que, on pense à l'éducation nationale, que au Moyen-Âge, on n'écrit pas, et que littérature contemporaine, ben finalement, il y en a pas. Et donc, résultat, quand vous, en tant qu'auteur, vous êtes devant une classe, la première chose qu'ils vous disent, c'est « Ah ben ça alors, on pensait qu'un écrivain, c'était quelqu'un de mort ». Et vous dites, eh bien non, non, non. Et c'est ça qui est dommage.
Vous diriez que ce sont des programmes qui ne sont pas adaptés.
Oui, je dirais que ce sont des programmes qui ne sont pas adaptés.
Alors comment on s'adapte ?
En prenant dans le Moyen-Âge Tristan et Iseut, le roman de Renard, La quête du Graal, et en prenant des romans contemporains.
Transition habile, Clara Dupont-Monod, pour parler de votre dernier roman qui s'appelle S'adapter. L'histoire d'une fratrie, je le disais, dont l'équilibre est bouleversé par la venue au monde d'un enfant atteint d'une malformation génétique rare, d'une fratrie qui doit s'adapter. S'adapter, qu'est-ce que ça veut dire au fond ?
Ça veut dire faire avec et pas faire contre. Et ça, c'est quelque chose, ça a l'air de rien, mais on met une vie, en fait, à l'apprendre. Et les enfants, les trois enfants de cette fratrie, gravitent autour de cet enfant handicapé. Alors, je l'ai vraiment vécu, moi, en écrivant comme trois planètes autour d'un soleil. Et chacun va composer avec sa réserve de courage et de souplesse intérieure. Ce qu'on doit tous faire, en vérité. Quand vous changez de travail, quand vous tombez amoureux, quand les enfants grandissent, quand vous quittez quelqu'un, quand les enfants naissent, vous êtes tout le temps en train de vous adapter. Mais là, il y a cette idée de différence qui est peut-être le sommet de l'adaptation. Et ces trois enfants-là apprennent à faire avec et pas contre.
Qu'est-ce qui rend parfois l'adaptation difficile, douloureuse ? C'est une histoire, vous ne vous en cachez pas, qui est une histoire intime. À quoi est-ce que vous avez dû vous adapter, vous ?
Alors, à mon fond protestant qui consiste à me m'auto-gronder en disant « tu parles pas de toi, c'est pas bien ». Mais c'est complètement raté, hein, puisqu'il y a s'adapter maintenant.
Et c'est dommage, surtout.
Et c'est dommage, absolument. Mais ce sont les... dans ces cas-là, vous devez contrer les élans intérieurs. Alors, notamment qu'à, par exemple, la cadette, dans le livre, oui. Je parle d'elle parce qu'elle a d'abord le mouvement de refus. Elle est en colère après cet enfant handicapé qui vient quand même confisquer tout son équilibre familial. Et elle est furieuse. Et au fond, elle a raison de l'être. Elle trouve ça injuste. Ça l'est. Elle trouve ça brutal. Ça l'est. Donc, elle fait d'abord contre.
Pour faire pour.
Exactement, pour se rendre ensuite compte que c'est stérile et que du coup, il va mieux valoir faire pour et ainsi, elle pourra remettre la famille sur pied, en partie.
Vous savez qu'il y en a une qui n'est pas très adaptable dans cette émission. Sans doute la connaissez-vous, Clara, c'est la culture. Et son actualité raide et rigide comme une trique. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 12 novembre ?
Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Hein.
Maintenant, ne bouge pas.
Clic-clac, c'est dans la boîte. Après l'annulation de l'édition 2020, la foire Paris Photo fait son retour au Grand Palais éphémère à Paris. Jusqu'à dimanche, 175 galeries venues de 31 pays explorent près de 100 ans d'histoire de l'image fixe. En présentiel ou en ligne, on pourra notamment y admirer les œuvres des maîtres Bill Brandt, Brassailles ou Irving Penn, ou découvrir celles de talents plus récents comme Julien Guinan et son travail sur le dérèglement climatique, ou celles de la photographe et militante sud-africaine Sue Williamson, Come On.
Ce soir, événement, c'est Soirée Disco.
Fini et bien fini la jauge qui régulait la fréquentation des boîtes de nuit aux trois quarts pour éviter la propagation de l'épidémie est définitivement levée. Mise en place début juin et succédant à plus d'un an de fermeture forcée pour les clubs, la mesure a été abrogée par un décret publié hier, un acte officiel, mais au final plus symbolique qu'autre chose, puisque dans les faits, Clara, vous le savez, la grande majorité des départements l'avait déjà supprimé au niveau local. Let's party, comme jamais.
C'est des bêtes qui vivent dans la mer. Moi, j'aime bien.
Un peu de poésie et de couleurs, le parc bordelais allume dès aujourd'hui les lampions de son monde merveilleux des couleurs. Un grand spectacle expo réunissant plus de 500 lanternes géantes en forme d'animaux fantastiques et de décors magiques. Inspiré de la tradition chinoise et entièrement réalisé avec des ampoules LED et des tissus de soie, les sculptures se déploient dès la tombée de la nuit pour une balade féerique entre Alice au Pays des Merveilles et le magicien d'Oz et de toute beauté. Puis c'est vendredi, alors on sourit, on fait le plein de sensations pures avec The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, le deuxième album solo du capitaine de Blur et Gorillaz Damon Albarn, qui nous emmène du côté de la terre de glace pour une échappée méditative tout en douceur. On ose la cavale avec Nolwenn Leroy et Benjamin Biolay qui s'accordent autour de leurs envies d'ailleurs et de disco, et sinon on baroude sous un soleil énorme en compagnie de Bernard Lavilliers, le chanteur aux semelles de vent inspiré cette fois par ses aventures argentines, et bim. Et la romancière Clara Dupont-Mono, invitée de Boomerang ce matin pour parler de littérature et aussi de famille. Quand même, la famille qui est au cœur de votre roman s'adapter. Dans quelle famille est-ce que vous avez grandi, vous ? Vous parliez de protestantisme.
Ah oui, j'ai grandi dans une famille cévenole, protestante, très protestante. Les calvinistes, ils vous diraient que c'est les purs, les vrais. Et on parle peu, on rit beaucoup et on est très endurant.
On travaille.
Ce sont des gens que j'admire beaucoup. Tout l'univers du livre est imprégné de ça.
Vous aviez quelle place, vous, dans cette famille ?
Dans la fratrie.
Ouais.
Alors, dans la fratrie, j'étais l'aînée. Je suis d'ailleurs toujours l'aînée. Mais le livre s'adaptait. On adorerait que dans la vraie vie, ce soit aussi segmenté et simple comme en littérature. Moi, j'ai compartimenté volontairement en faisant l'aînée amour fou, la cadette la colère, et en fait, le dernier, l'enfant qui répare. Et la vérité est que c'est beaucoup plus un autoportrait, finalement, en trois parties, en trois membres de la fratrie, que correspondant à la vraie vie.
C'est intéressant. Quelle sœur est-ce que vous étiez vis-à-vis de ce petit frère qui est, pour ainsi dire, à l'origine de ce livre, S'adapter, Clara ?
J'ai tout été vis-à-vis de S'adapter. Je l'ai beaucoup cajolé. Je lui en ai voulu. Et je me suis dit à un moment que ma famille valait bien la peine qu'on dépense un peu d'énergie pour elle. Donc j'ai été un peu les trois.
Pourquoi je vous en parle ? Non pas pour avoir des éléments autobiographiques sur vous, mais simplement parce que ce frère, en l'occurrence, il est à l'origine de votre vocation d'écrivain. Sa disparition, alors qu'il n'avait que 10 ans, dans quel état est-ce que ça vous a fait basculer ? Dans quel état de création ?
Eh bien, c'est au moment de son enterrement, en fait, devant la tombe, au moment de la mise en terre, en fait, très précisément, que je me suis dit que je laisserais un livre pour lui. Et j'ai le souvenir d'avoir été très heureuse. C'était pas du tout quelque chose qui m'a mise par terre, en fait. Je sais que c'est pas très attendu, mais on dira jamais assez combien le côtoiement d'un enfant différent est source d'incroyables richesses. Vous n'en sortez pas plus mûr, mais plus grandi, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et plus riche surtout. Et donc c'est au moment de son enterrement que je me suis dit, je laisserai un livre pour toi. J'avais le temps, personne ne me demandait un délai, c'était uniquement moi qui me faisais cette promesse, et à lui. Donc j'avais le temps, et je me suis dit, je mettrais peut-être 30 ans, 2 mois, quelle importance, puisque je le ferai. Et c'est ce qui s'est passé.
Faut-il donc que les frères meurent pour que les livres naissent ?
Peut-être, peut-être.
Il vous arrive de vous dire que si votre frère n'était pas mort, vous ne seriez pas devenu écrivain ?
Je pense quand même que j'aurais eu au fond de moi, si je pense que je serais quand même devenue écrivain, parce que avant de faire cette promesse, c'est comme une espèce de jalon, un point de bascule, ce que vous disiez. Mais il y a au préalable un terreau qui est quand même très favorable. Moi, je faisais partie de ces enfants qui regroupaient les cousins et je leur lisais ce que j'écrivais. J'embêtais tout le monde avec ça.
Bah la cousinade, Clara. Ouais.
Exactement,
la cousinade littéraire.
Exactement, j'ai écrit des poèmes qui sont très mauvais. Il y avait déjà une façon de littérariser les expériences vécues.
Mais c'est intéressant que vos débuts d'écrivain soient placés sous le signe d'un fantôme. D'ailleurs, votre premier roman, Éowale Luciole, est une évocation de votre frère. Dans quelle mesure écrire, c'est toujours écrire avec des fantômes, c'est toujours convoquer des fantômes?
Eh bien, je pense qu'il y a une différence entre vivre sans quelqu'un et vivre avec l'absence de quelqu'un.
Oui.
Et en fait, c'est ce que fait l'aîné finalement dans S'adapter. L'aîné, il décide que vivre avec l'absence de son frère est toujours préférable à vivre sans lui.
Mais comment on vit avec les fantômes ?
On vit très bien. Je sais que c'est pas très prisé par nos sociétés qui ne cessent de nous dire allez de l'avant, tourne la page, regarde devant. Et en fait, non. L'aîné, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il fait un pas en arrière du monde. Et que si finalement faire son deuil, c'est renoncer à son propre chagrin, eh ben il a pas envie. Et ça ne le rend pas malheureux. Quand la cadette lui demande « Est-ce que ça va ?» et qu'il répond « Oui, elle le croit. Ça va. Seulement c'est doux. Alors oui, c'est un peu triste, mais au fond, c'est une façon de s'adapter et c'est la sienne. Et qui sommes-nous pour juger ? Et je pense que vivre avec la perte, finalement, c'est pas si désagréable. Et après tout, c'est un équilibre comme un autre qu'on a dû refabriquer.
Vous savez, c'est intéressant parce que je me suis replongé dans vos livres pour préparer cette émission.
Oh là là !
Et je me suis rendu compte quand même qu'après ce premier roman, vous avez continué souvent à vous intéresser à des personnages qui étaient mis à l'écart. Que ce soit dans La Folie du Roi Marc, Histoire d'une prostituée ou La Passion selon Jouette, qui sont des livres que j'aime bien, des personnages dans une certaine mesure inadaptés.
Absolument. Je pense, mais ça on s'en rend compte après coup, qu'en fait il y a et comme par hasard, mais en effet, il y a un goût pour la marge, la mise à l'écart, qui spontanément, pas seulement m'intéresse, mais me rend tendre.
Alors c'est passionnant, se peut-il que l'écrivain soit une figure de l'inadaptation ?
Ah, je pense, absolument, je pense. Quand j'ai reçu le prix Landerneau, Serge Joncourt, l'écrivain que j'aime beaucoup, qui préside cette édition, a dit quelque chose que je trouve très juste. Il a dit, au fond, nous sommes tous des inadaptés et que les adaptés restent où ils sont. C'est une espèce de manifeste comme ça des inadaptés. Mais
en quoi vous l'êtes-vous inadapté ?
Oh mais de multiples choses. Heureusement que vous vivez pas avec moi, Augustin. Vous seriez affolé.
Donc, préservez-moi. Je vous ai déjà matin à 9h. Je peux en plus vivre avec les artistes.
Quantité de choses. Le matériel me dépasse. Je fais partie des gens qui s'affolent pour une perte de clé, mais qui en revanche restent avec beaucoup de sang-froid en cas d'épreuve.
Qui s'accommode mal aussi à la réalité, au monde tel qu'il est.
On compose avec elle, mais c'est pas forcément une amie, hein, la réalité. On compose avec elle. C'est un vieux compagnonnage. Il faut la tolérer, mais on n'est pas obligé de l'aimer.
Quand elle est trop pesante, on fait quoi ?
Eh bien, quand on l'écrit, parce que brusquement, ça lui donne quelques couleurs un peu plus présentables.
C'est ce que vous faites ?
Exactement.
Je suis sûr que vous écoutez de la musique aussi. Je suis sûr que vous écoutez Laura Branigan.
Mais oui, je suis désespérée, parce que je suis la seule dans cette radio à tellement aimer la variété des années 80, mais Laura Branigan, évidemment.
Vous allez dire qu'on était tous trop jeunes, Clara.
Mais j'étais même pas née.
Mais moi, en l'occurrence, je me souviens de mon grand frère, Thomas. Je le revois, c'est un souvenir gênant. J'avais 5 ans, il était en train de se dandiner avec une brosse à dents en guise de micro, chanter Self Control.
Et là, on le passe.
Bah parce que c'est vendredi, parce que c'est vous, parce que vous nous l'avez demandé aussi.
Ah, c'est génial.
Ce que vous êtes, et ça, les auditeurs ne savent pas forcément, une créature de la nuit, Clara. Parce que vous écoutez Boomerang, tout simplement.
Breaking, wearing white.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
C'est-à-dire, quand on la voit, on a du mal à imaginer qu'elle va perdre le contrôle. Et pourtant, on est moins du côté du chêne que du roseau, qui plie, qui ploie, mais qui jamais ne casse, solide et tonique, le cheveu mousse, végétal, l'œil batelier de la Volga, le sourire en coin, façon à la va comme je te pousse, tout en veste rose à paillettes. Et dentelle, s'il vous plaît, tout en créole aussi, je les ai remarqués, la romancière Clara Dupont-Monod, invitée de Boomerang pour s'adapter ce livre pour lequel vous plantez le décor dans les Cévennes. Et c'est là-bas en partie que vous avez grandi, je crois, cette région. Quel paysage est-ce qu'elle vous évoque immédiatement, Clara ?
L'âpreté et l'humilité, parce que ce sont des paysages en fait qui demandent une humilité de l'homme. C'est à l'homme de s'adapter à la montagne, à la nature, et c'est pas l'inverse.
Et dans quelle mesure ces paysages qu'on fréquente enfant finissent par avoir une incidence sur celui ou celle qu'on est, qu'on devient ? En quoi est-ce qu'on est formé par un paysage ? C'est une question que je me suis posée à nombreuses reprises en lisant votre livre.
C'est intéressant comme question, parce que moi je reste persuadée qu'on est l'enfant d'un lieu, et que le lieu vaut quand même très souvent pour parenté.
Précisément.
Par exemple, regardez l'expression « enfant du pays ». Ça c'est quelque chose... Mais en fait, oui, je pense qu'on est d'abord d'un lieu. Et en ce qui concerne les Cévennes, je me demande si c'est pas proche de ceux qui ont vécu au bord de la mer, vous savez, près de l'océan, où c'est la même intransigeance de la nature. Ça crée en vous une forme d'intransigeance aussi, une forme de dureté, et aussi un état d'alerte permanent. C'est-à-dire que l'orage n'est jamais loin. La tempête est à portée de main. On la voit pas venir. Il faut se méfier d'un ciel qui noircit, d'un vent qui est plus frais. Ça vous donne un état de veille. Et ça n'est pas très étonnant finalement, parce que je me rends compte que c'est ce que s'adapter, pour moi en tout cas, c'est l'histoire d'un état de veille. Les membres de la fratrie veillent les uns sur les autres. Les parents veillent sur les enfants veillent sur les parents, les trois veillent sur le petit handicapé. La montagne veille sur eux, mais la famille veille aussi quand même à ce que la montagne ne leur prenne pas tout le temps d'un énorme caprice qui s'appelle un orage.
Et en tant qu'écrivain, qu'est-ce qu'il y a de plus cévenol en vous ?
La phrase ciselée, courte, une façon peut-être parfois d'écrire un peu comme de la rocaille.
Oui. Je pensais beaucoup à la colère, moi, personnellement, parce que c'est aussi effectivement une écriture qui est propice au déchaînement du verbe, au surgissement d'une certaine colère, d'une certaine violence. Et je pense au personnage de la cadette, là,
oui.
Précisément.
Mais moi, j'ai beaucoup d'estime pour la colère. Là aussi, c'est un sentiment qui n'est pas très bien vu par nos sociétés. Et Aliénor d'Aquitaine, quand j'ai écrit sur Aliénor d'Aquitaine, c'était, en fait, la figure de la colère. Et il y a quelque chose dans la colère qui tient debout. Il y a une force verticale. À un moment, la cadette, elle dit, la colère, c'est la puissance qui me maintient verticalement,
oui.
Contrairement, en fait, aux enfants qui sont allongés tout le temps, éternellement. Et d'ailleurs, ce qu'elle supporte pas, c'est le pied de l'enfant,
c'est ça,
cambré comme celui d'une ballerine, parce qu'il s'est jamais posé à terre.
Quel corps il a, ce frère, Clara Dupont-Monod ?
Il a un corps pâle, maigre, mais une croissance normale, entre guillemets, c'est-à-dire que plus il avance en âge, et plus il grandit, comme un enfant qui a 5 ans, 6 ans, donc il devient de plus en plus difficile à porter, à déplacer, puisque il grandit, tout simplement.
Et elle, la cadette, quel corps est-ce qu'elle a ?
Elle a un corps nerveux, elle a un corps qui est mince, elle a un corps rageur, en vérité, un corps qui tape, elle a des mollets musclés, qui fait qu'elle peut monter la montagne et taper du pied, elle a les poings serrés, elle est comme Aliénor. Aliénor, c'était une figure de poings serrés, et j'aime, moi, ces figures de poings serrés. L'aîné, il n'est pas comme ça, mais c'est aussi parce que il a réussi aussi, quand même, lui, à convertir la colère en une espèce de passion que, moi, je trouve très touchante.
Mais à vous entendre, Clara Dupont-Monod, et c'est fascinant, écrire, ce serait presque faire exister des corps, en fait.
Vous avez raison, écrire, c'est faire exister des corps, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, vous vous surprenez même quand vous écrivez à leur parler. Donc, on n'a jamais dit qu'un écrivain était sans esprit, la preuve. Mais vous vous retrouvez à leur parler. Il faut bien comprendre qu'écrire un livre, c'est se fabriquer des amis. Donc, on voit surgir des personnages, peu importe que ce soit nous qui les ayons façonnés. En l'occurrence, ils vont finir quand même par avoir une voix propre, des réactions, et ça devient des amis.
Et la colère, vous la partagez dans ce cas-là ?
Oui, je gronde avec eux. C'est ça que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont quand même tous en eux, face à cet inattendu qui est un enfant inadapté, qui pourrait être autre chose, hein, mais qui là, en l'occurrence, est le handicap d'un enfant, ils ont quand même en eux cette espèce de fracture. Et au fond, les trois, moi, je les vois aussi quand même avec une force de vie. Parce que la colère, c'est ça. Et l'aîné, dans son amour absolument intégral, c'est aussi une force de vie.
Alors la colère fait écrire ?
La colère fait écrire. Elle fait pas toujours de belles choses, hein, la colère. Parfois, elle vous rend vulgaire. Mais j'aime bien aussi la vulgarité. C'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup la vulgarité, ça me gêne pas. Et oui, la colère, en effet, fait écrire.
Il se trouve que ce matin, vous nous avez écrit un texte. Un texte que j'aimerais que vous nous lisiez. Je dis rien. Les auditeurs vont comprendre et entendre.
Chère bureaucratie française, j'aime la danse classique et je la pratique depuis un moment. Je suis comme toi, j'ai un hobby. Le tien, c'est de pourrir la vie des gens, et notamment celle des familles dont l'enfant n'est pas comme les autres. Je comprends que tu aimes ce hobby. Il demande autant de rigueur que pour réaliser un pas de danse classique. À moi l'arabesque, à toi la mise à terre des familles. Pour ça, Vénarde, tu es aidée. Tu as plein d'acronymes pour encombrer le chemin. La MDPH, la CDA, la CDAPH, qui est la version upgradée de la CDA, le PPS, le SMS, la JPP et plein d'autres. Par exemple, pour avoir droit à une AESH, c'est-à-dire une personne qui aide l'enfant handicapé dans une classe, il faut remplir un dossier MDPH de 32 pages que même un énarque avec un QI obèse relirait deux fois. Et une fois le dossier rempli, il faut attendre 4 mois environ pour avoir la notification qui dit si oui ou non l'enfant sera aidé. Ah, coquine bureaucratie, tu me fais là un entrechat de paperasse. Si la réponse est positive, il faut attendre que l'AESH soit nommé et recruté par l'inspection académique, ce qui peut prendre plusieurs mois. Tu avoueras que c'est très long comme entretien d'embauche, hein, plusieurs mois. Mais on ne réussit pas une chorégraphie du premier coup, je te comprends. Et parce que tu aimes la perfection comme en danse classique, l'AESH sera soit M, soit I. Bien sûr, s'il n'y a pas d'AESH, eh ben, l'enfant attendra. L'instit s'en occupera. Tant pis s'il a une classe sur les bras et aucune formation spécifique. Il faut bien que le chausson se détende. Tu es vraiment taquine. Tous les 3 ans, tu demandes aux familles de tout recommencer. Le dossier de 32 pages, les bilans, les attestations, les certificats, les devis. Tu demandes donc aux familles de prouver tous les 3 ans que leur enfant est toujours handicapé. Au cas où la trisomie disparaîtrait comme par magie, au cas où une petite tétraplégique pourrait se mettre debout. Friponne bureaucratie. Tu y mets vraiment du cœur, j'aime échanger avec toi. Tiens, en danse, il existe la figure du fouetté. Elle serait parfaite pour toi. Je t'embrasse, Clara.
Quelle distance, Clara Dupont-Monod, est-ce qu'il faut prendre pour composer avec la réalité, avec le réel ?
Il faut prendre une grande distance qui s'appelle le sens de l'humour. Et je pense que sans sens de l'humour, on vit beaucoup moins bien. C'est comme l'écriture.
Vous l'avez toujours eu, celui-là ?
Ah oui, ça sauve. Ça sauve. Ça et un fond de joueur de casino. Si vous êtes équipé avec un fond de joueur de casino de l'humour et que vous n'avez pas peur de perdre de l'argent, il y a quand même quelque chose d'indécent, alors vous êtes à peu près équipé.
C'est quoi le fond de joueur de casino ?
C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le jeu. C'est pas le gain en fait qui intéresse les vrais joueurs, c'est le principe du jeu. Et donc si vous aimez le jeu, vous pouvez prendre beaucoup de choses dans la vie qui piquent, qui sont pas agréables, comme une espèce de jeu d'obstacles et il va falloir arriver au bout quoi.
Et vous y êtes arrivé au bout ?
En tout cas, le prix Femina, vous voyez, et le prix Landerneau, ça a été quand même une forme de boue qui faisait sens.
Merci infiniment,
Clara. Merci, Augustin.
Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que S'adapter, prix Landerneau des lecteurs, donc, et prix Femina cette année, est publié chez Stock, et que c'est vraiment très beau. Merci à vous, et merci à toute l'équipe de Boomerang cette semaine. Perrine Malinge, Lola Costantini, Léonard Billot, Pierre Démé, Jérôme Humbert, et Valentine Chedebois, figurez-vous, qui a fait son grand retour dans cette émission en tant que programmatrice musicale, DJ Valine, au platine, Valine, Caroline, tout de suite.